l'équivalent de 500 bombes atomiques d'Hiroshima vient d'être rejeté dans l'atmosphère.
Здравствуйте. С вами говорит инженер атомной энергетики Григорий Медведев.
Bonjour. Je m'appelle Grigory Medvedev. Je suis ingénieur atomiste. Juste après la catastrophe de Tchernobyl en 1986.
Parce que si c'était grave, on doit nous évacuer.
Это как крушение. Надо так значит, наверное.
Чернобыльская молитва.
La supplication de Svetlana Alexievich. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurent.
Это одна из самых трагических, наверное, тем современным.
Il est d'une trentaine de morts.
Мы работаем над тем, что она была все более и более надежной.
On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette centrale soit de plus en plus fiable.
И, например, иногда наши...
Quant au cimetière, pour les morts de Tchernobyl, on les appelle parfois cimetières de déchets radioactifs.
Tchernobyl, tout feu éteint irradie encore.
Qu'est-ce que c'est la radioactivité? On ne savait pas du tout.
Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse.
Témoignage 1.
Information historique. Il convient tout d'abord de déchirer le voile de secret qui entoure la Biélorussie. Car pour le monde, nous sommes une terra incognita, une terre inconnue, inexplorée. Chacun connaît Tchernobyl, mais seulement en rapport avec l'Ukraine et la Russie. Russie blanche. Telle est la traduction du nom Biélorussie. Народная газета, 27 avril 1996.
Il n'y a aucune centrale nucléaire en Biélorussie. Sur le territoire de l'ancienne URSS, les centrales qui se trouvent à proximité des frontières biélorusses sont équipées de réacteurs de type RBMK. Au nord, celle d'Ignalina, à l'est, celle de Smolensk, au sud, celle de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la quatrième tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie de 10 millions d'habitants, il s'agissait d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays en perdit 485. 70 d'entre eux sont enterrés, pour toujours. La guerre tua un Biélorusse sur quatre. Aujourd'hui, 1 sur 5 vit dans une région contaminée. Cela concerne 2 100 000 personnes, dont 700 000 enfants. Les radiations constituent la principale source de déficit démographique. Dans les régions de Gomel et de Moguiliev, qui ont le plus souffert de la tragédie, la mortalité est supérieure de 20% à la natalité. À la suite de l'influence permanente de petites doses d'irradiation, le nombre de personnes atteintes en Biélorussie de cancer, d'arriération mentale, de maladies nerveuses et psychiques, ainsi que de mutations génétiques, s'accroît chaque année.
Tchernobyl, Minsk, Biélorusskaya encyclopédia, 1996.
Selon les observations, un haut niveau de radiation fut enregistré le 29 avril 1986 en Pologne, en Allemagne, en Autriche et en Roumanie. Le 30 avril en Suisse et en Italie du Nord. Les 1er et 2 mai en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et dans le nord de la Grèce. Le 3 mai en Israël, au Koweït, en Turquie. Les substances gazeuses et volatiles projetées à grande altitude connurent une diffusion globale. Le 2 mai, elles furent enregistrées au Japon, le 4 en Chine, le 5 en Inde. les 5 et 6 mai, aux États-Unis et au Canada. En moins d'une semaine, Tchernobyl devint un problème pour le monde entier.
Posledstvia černobylskoj avárii v Belorusii. Minsk, au Collège international de radioécologie Sakharov, 1992.
Le quatrième réacteur, nom de code ABRI, conserve toujours dans son ventre gainé de plomb et de béton armé près de 20 tonnes de combustible nucléaire. Ce qu'il advient aujourd'hui de cette matière, nul ne le sait. Le sarcophage fut bâti à la hâte, et il s'agit d'une construction unique dont les ingénieurs de Peter qui l'ont conçue peuvent probablement se montrer fiers. Mais l'on procéda à son montage à distance. Les dalles furent raccordées à l'aide de robots et d'hélicoptères, d'où des fentes. Aujourd'hui, selon certaines données, la surface totale des interstices et des fissures dépasse 200 mètres carrés et des aérosols radioactifs continuent à s'en échapper. Le sarcophage peut-il tomber en ruine ? Personne ne peut non plus répondre à cette question. Car à ce jour, il est impossible de s'approcher de certains assemblages et constructions pour déterminer combien de temps ils peuvent durer encore. Mais il est clair que la destruction de l'abri aurait des conséquences encore plus horribles que celles de 1986.
Aganiok, le numéro 17, avril 1996.
Dans la nuit, un loup est entré dans la cour. Je l'ai regardé par la fenêtre. Il est là et ses yeux brillent comme des phares. Je me suis faite à tout. Mais je vis seule depuis 7 ans. Cela fait 7 ans que les gens sont partis. Dans la nuit, il m'arrive de rester éveillée jusqu'à l'aube et de penser. Cette nuit aussi, je suis restée assise toute la nuit sur mon lit, courbée comme un crochet. Et puis je suis sortie pour voir comment allait être le soleil. Que puis-je vous dire d'autre? La chose la plus juste au monde, c'est la mort. Personne ne peut se cacher d'elle. Un jeune peut mourir, mais le vieux ne peut pas faire autrement. D'abord, j'ai attendu le retour des gens. Je pensais qu'ils allaient revenir. Personne ne partait pour toujours, seulement pour quelque temps. Maintenant, j'attends la mort. Il n'est pas difficile de mourir, mais cela me fait peur. Il n'y a pas d'église ici. Le pape ne vient pas. Je n'ai personne pour m'aider à porter mes péchés. La première fois qu'on nous a parlé de radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt. Non, nous a-t-on expliqué, c'est une chose qui s'insère dans le sol mais qu'on ne peut pas voir. L'animal le peut, il la voit et l'entend, mais pas l'homme. Mais c'est faux. Moi, je l'ai vu. Il y avait de ce césium dans mon potager jusqu'à ce que la pluie l'ait mouillé. Il a une couleur d'encre. Il traînait par terre, luisant par morceaux. Je suis allée dans le champ du kolkhoz, jusque dans mon potager. C'était un morceau bleu. Et 200 mètres plus loin, un autre, grand comme le fichu sur ma tête. J'ai appelé une voisine, d'autres femmes. Nous avons couru en tous sens, sur 4 hectares peut-être. Nous avons trouvé 4 grands morceaux. L'un d'entre eux était rouge. Le lendemain matin, la pluie s'est mise à tomber sans arrêt. Et à l'heure du déjeuner, lorsque la milice est arrivée, il n'y avait plus rien à leur montrer. On leur a juste raconté. Des morceaux comme ça, comme mon fichu, bleu et rouge. Nous n'étions pas très effrayés par cette radiation. Si on ne l'avait pas vue, on en aurait peut-être eu peur. Mais lorsque nous l'avons vue, il n'y avait pas de quoi être tellement effrayé. La milice et les soldats ont placé des pancartes. Près de certaines maisons, ils écrivaient 70 curies, 60 curies. Nous qui vivions là de toute éternité en nous nourrissant de nos pommes de terre, on nous a dit soudain que c'était interdit. Certains pleuraient, d'autres ricanaient. on nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masses de coton et des gants de caoutchouc. Et un savant très gonflé est venu nous parler au club du village. Il a prétendu qu'il fallait laver les bûches. A-t-on jamais entendu pareille chose? Que mes oreilles se dessèchent pour toujours. On nous a ordonné de laver les draps, les housses, les rideaux. Mais tout cela était à l'intérieur de la maison, dans des placards et dans des coffres. Et quelle radiation pouvait-il y avoir dans la maison? Derrière les vitres? Derrière la porte? C'est tout de même formidable. Il fallait plutôt la chercher dans la forêt et dans les champs. On a mis les puits sous scellés. On les a enveloppés d'une pellicule de plastique. L'eau serait-elle sale? Mais de quoi parlait-il? Elle a toujours été si pure. Ils ont sorti des tonnes de balivernes. Vous allez tous mourir. Il faut partir, il faut évacuer. Les gens avaient peur. Ils étaient terrifiés. Certains ont entrepris d'enterrer leurs biens. Moi aussi, j'ai plié mes habits, les diplômes d'honneur pour mon travail honnête et les quelques sous que j'avais économisés. Et quelle tristesse! D'où nous est-il venu ce malheur? Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais les larmes coulent toutes seules. Je vais me souvenir de tout pour vous. Les avions passaient et repassaient, tous les jours, très bas au-dessus de nos têtes. Ils volaient vers le réacteur, vers la centrale, l'un après l'autre. Chez nous, c'était l'évacuation. Les soldats prenaient nos maisons d'assaut. Les gens s'enfermaient à clé, se cachaient. Le bétail hurlait, les enfants pleuraient, comme si c'était la guerre. Et le soleil brillait. Moi, j'attendais dans la maison, mais sans m'enfermer à clé. Les soldats sont venus. Alors, grand-mère, tu es prête? Je leur ai demandé, vous allez m'attacher les bras et les jambes de force? Ils sont restés quelques instants sans parler, puis sont partis. Deux jeunes, de vrais gamins. Les femmes imploraient à genoux devant leur maison, mais les soldats les prenaient sous les bras l'une après l'autre pour les faire monter dans les camions. Mais moi, je les menaçais de mon bâton. Les injuriais, leur lançaient les pires insultes. Mais je ne pleurais pas. À l'époque, je n'ai pas pleuré. Je suis restée dans la maison. On criait. On criait très fort. Puis, plus rien. Le silence. Tout est devenu calme. Le premier jour, je ne suis pas sortie de chez moi. Plus tard, on m'a raconté comment la colonne de gens marchait et la colonne de bétail qui avançait. Comme à la guerre. Mon mari aimait à dire que l'homme tirait, mais que Dieu dirigeait les balles. À chacun son destin. Parmi les jeunes qui sont partis, certains sont déjà morts dans leur nouveau lieu de résidence. Et moi, je marche avec mon bâton. Top, top. Parfois, je m'ennuie et je pleure. Le village est vide, mais il y a plein d'oiseaux. Ils volent et les cerfs viennent comme si de rien n'était. Je vais me souvenir de tout. Les gens sont partis, mais ils ont laissé les chiens et les chats. Au début, je leur versais du lait ou leur donnais du pain. Ils restaient près des cours de leur maître et guettaient leur retour. Ils ont longtemps attendu. Les chats affamés mangeaient des concombres, des tomates. Jusqu'à l'automne, j'ai coupé les herbes devant l'entrée de la voisine. J'ai aussi réparé sa palissade. J'attendais qu'ils reviennent, moi aussi. Le chien des voisins s'appelait Djoutchok. Djoutchok, lui dis-je, si tu rencontres des gens le premier, Appelle-moi. J'avais un gentil chat, Vaska. En hiver, des rats affamés m'attaquaient. Ils ne me laissaient pas de répit. Ils se glissaient sous la couverture. Ils ont grignoté un passage dans le tonneau à grains. C'est Vaska qui m'a sauvée. Sans lui, je serais déjà morte. Nous parlions et mangions ensemble. Et puis un jour, il a disparu. Peut-être des chiens affamés l'ont-ils attaqué et dévoré. Ils erraient faméliques jusqu'à ce qu'ils crèvent tous. Les chats avaient tellement faim en hiver qu'ils mangeaient les chatons. Que Dieu me pardonne. Et les rats ont dévoré une femme. Des rats roux. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'on en raconte. Des sans-logis viennent fouiller par ici. Dans les premiers temps, il y avait beaucoup de choses à abandonner. Des chemises, des pulls, des pelisses. Ils n'avaient qu'à se servir à les vendre au marché aux puces. Ils se saoulaient et chantaient des chansons. « Putain de ta mère !» L'un d'eux est tombé de son vélo et s'est endormi dans la rue. Le matin, on n'a retrouvé que deux os et le vélo. Vrai ou faux, je ne saurais le dire. C'est ce qu'on raconte. Je vais sur les tombes. Ma mère repose là. Ma fille, toute petite, morte de la typhoïde pendant la guerre. À peine l'avait-on enterrée que le soleil est sorti de derrière les nuages et il brillait. On avait vraiment envie de la sortir du trou. Mon homme aussi est là. Mon Fedia. Je reste là, au milieu de tous. Je soupire. On peut parler avec les morts comme avec les vivants. Je ne vois pas de différence. Je les entends, les uns comme les autres. Lorsqu'on reste tout seul, et lorsque la tristesse vous gagne, une tristesse immense, il m'arrive de fermer les yeux et de me promener dans le village. Et je leur dis, mais de quelle radiation parlez-vous alors que les papillons volent et que les abeilles bourdonnent et que mon Vaska attrape des souris? Et toi, ma petite, as-tu compris ma tristesse? Tu vas la porter aux gens, mais je ne serai peut-être plus là. On me trouvera sous la terre, sous des racines.
Zinaïda Yevdokimovna Kovalenka, résidente sans autorisation.
La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurin. Avec Jean-Gabriel Nordman, Vladimir Melechuk, Sophie Lacoste, Nicolas Raka, Isabelle Sadoyan et Yana Bitnerova. Prise de son, montage, mixage, Guy Senot et Mathieu Leroy. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.
La supplication de Svetlana Alexievitch est parue aux éditions Jean-Claude Lattès.